Jupiter, c'est encore meilleur en direct, du lundi au vendredi à 17h sur France Inter.
Allez, jour 4 des vacances.
Ah, alors qu'est-ce qu'on met dans le florilège ?
Eh ben peut-être l'émission avec Michel Thor.
Hein ? Mais on n'a jamais fait d'émission avec Michel Thor.
Eh ben, tu fais bien d'en parler. Ouais. Il faudrait rapidement remédier à ça.
Non, arrête, alors... Alex, arrête, parce que chaque chose en son temps. Alors bon, d'abord, qu'est-ce qui reste comme bonne émission, là ?
Bon, de manière générale, elles sont toutes bonnes. Hein.
Ah ouais ?
Ah vraiment,
ouais.
Je trouve que c'est... Bah, c'est essentiellement dû au choix des thèmes.
Ah,
c'est toujours
trouves,
pertinent,
ouais.
Pointu, en lien vraiment avec l'actu et l'air du temps.
C'est... Alex !
Et puis surtout, elles sont bien préparées, les
Allez,
sujets.
Allez, Alex, qu'est-ce que tu veux, là ?
J'aimerais qu'on mette l'émission avec Annie Dupéré.
Oui, bah très bien, oui.
Bah, t'as pas bronché.
Bah non, pourquoi ? J'aurais très bien pu la choisir moi-même, celle-là.
Ah bah alors, je me suis forcé pour rien, dis donc.
Forcé à quoi ?
Non.
À dire tout le bien que tu pensais de mon travail alors que c'était pas vrai, c'est
non,
ça ?
Non, c'est pas ça.
Mais... Là, comme t'es là, tu regrettes, c'est
non,
ça ?
Non, mais tu sais, moi, les journalistes...
Ce sont des gens formidables, les journalistes. Et d'ailleurs, pour ta peine, je vais t'en faire écouter. Hein.
Oh non !
Si,
non.
On va prendre l'émission avec Ali Badou.
Ah, bon. Oh, lui, ça va.
Ah bah t'as un problème avec quel journaliste, alors ?
Non, aucune.
France Inter.
Bah, ouais, surprise.
Ah bah oui, ça d'habitude, je dis bonjour.
Bah ouais.
J'ai dit coucou.
Bah, dis donc, on n'est jamais sur les acquis.
Bienvenue parmi les jeunes entrepreneurs de la radio. Et aujourd'hui, nous formons deux invités à l'esprit start-up. Le premier a quelques notions déjà, puisqu'il travaille sur cette antenne, Ali Badou, qui évoquera ces inconnus qui nous gouvernent. Ah oui, je vous mets au défi de citer par cœur le nom de tous les ministres du gouvernement. Hein. Et on évoquera la qualification du Maroc à la Coupe du Monde de foot. Annie Dupéret sera avec nous en deuxième partie d'émission pour un coup de gueule contre le glyphosate et ne ratez surtout pas le sketch parce qu'on a plongé Annie Dupéret dans le milieu du grand banditisme ostréicole. Oui, chez les voleurs d'huîtres.
C'est n'importe quoi.
Et voici le capitaine de la belle équipe.
Il est là.
Alex Vizorek.
La belle équipe va larguer les amarres.
Oui.
Et qui est à bord ? Pablo Mira, qui nous parlera du classement des personnalités de l'année 2017 et drame, il n'y figure pas.
Ah,
Christine Gonzalez, grosse surprise. Christine Gonzalez a parlé avec Marguerite Duras. Et alors, comme tous les jours, Guillaume Meurice, on l'a envoyé à l'Apple Store et Frédéric Fromet nous a écrit une belle chanson pour les Hollandaises victimes de harcèlement sexuel. Balance ton porc d'Amsterdam.
Oh. Allez, allons-y pour une heure de rigolade sur la marche du monde.
France Inter, Charline Vanunacker, Alex Vizorek. Par Jupiter.
Bienvenue donc Ali.
Merci.
Machin.
Là on a perdu l'auditorat Front National.
Revenez.
Merci d'être avec nous Ali Badou. On vous entend bien sûr le vendredi matin sur cette antenne, l'interview de 7h50. Le dimanche, question politique de 12h à 13h et le grand face-à-face d'Attacha Polony, Raphaël Glucksmann. Et à la télé le samedi sur France 5, 19h pour C'est l'Hebdo.
Exactement.
On a regardé samedi aussi.
J'ai les week-ends chargés.
Ouais, on va y revenir justement. Première question, vous avez été donc conseiller au cabinet de Jack Lang. Est-ce que ça a fasciné votre vision de la politique ? Bah aujourd'hui, vous quand même, vous animez Question Politique, quel grand rendez-vous du dimanche ici, politique. Donc vous avez fait un peu le chemin inverse de pas mal de journalistes qui vont travailler dans les cabinets. Vous avez un peu fait vos gammes dans un cabinet. C'est-à-dire que maintenant, quand vous recevez les politiques, vous savez comment ça fonctionne de l'intérieur, faut pas vous la faire à l'envers ?
C'est un peu ça, mais ça a été une très très bonne expérience. C'était pas une expérience politique, mais c'était une expérience d'écriture de discours, de suivi d'un programme qui me touche beaucoup parce que j'ai enseigné à Sciences Po pendant 10 ans. C'était le programme mis en place à destination des publics qui venaient des ZEP. Et donc, j'ai accompagné ça pendant 2 ans au cabinet du ministère de... Comment on dit ? Jean-Michel Blanquer.
C'est ça, voilà.
Du ministère de l'Éducation nationale. Et donc, c'était assez passionnant.
Ouais.
Mais c'est vrai que du coup, ça permet de comprendre la machine de l'intérieur.
Oui, vous l'avez bien vu de l'intérieur. Est-ce que parfois, quand vous avez un politique en face, il y a ce prisme-là qui revient encore ? Ou vous êtes plutôt... Voilà, sur les questions de fond, et donc c'est pas...
Non, il y a ce prisme-là, mais pour moi, c'était une expérience qui donne envie de croire à la politique, parce que moi, quand j'ai vu fonctionner l'administration et le cabinet de Jack Lang à l'époque, c'était pour la plupart des gens qui étaient hyper convaincus, très compétents, super mobilisés, qui avaient envie vraiment de faire changer les choses, et donc c'était pas une expérience qui m'a laissé désabuser, au contraire.
Vous avez encore les éléments de langage.
Exactement.
L'équipe motivée,
on va
changer les choses.
Alors, on vous a regardé aussi dans C'est l'hebdo, oui. le samedi à 19h sur France 5, qui est en anglais média, hein, ce magazine-là. J'ai flippé quand j'ai vu arriver et Natacha Polony et Elisabeth Lévy, toutes deux vêtues de cuir.
Elles étaient toutes les deux en cuir, mais un peu comme un groupe de heavy metal. C'est vrai que c'était assez marrant.
Vous prenez des risques.
Le club des bikeuses, les rebelles. Mais c'était intéressant.
Et elles étaient
bourrées
comme un groupe de heavy metal aussi.
Ah, ça, on ne trahit pas ce qui se passe dans les coulisses de l'émission. Okay. Mais c'est la qualité de l'émission, on dépend quand même.
Et vous vous êtes dit, c'est vrai qu'en ce moment on n'entend jamais Elisabeth Lévy, alors on va l'inviter.
Non, mais c'est une parole qui est iconoclaste, et ce qui est frappant, c'est que donc elle dirige le magazine Causeur, qui a fait sa une, moi ça m'a laissé médusé, arrêter la chasse à l'homme, alors que tout le monde est en train de se féliciter de la libération des paroles des femmes, et puis peut-être on peut l'espérer d'une sorte de révolution culturelle qui serait en cours. Elle dit exactement l'inverse. Le problème, c'est le harcèlement des féministes. Donc je me suis dit que c'était intéressant d'en débattre avec elle.
Effectivement. Et vous avez fait d'ailleurs d'excellents...
Le jour où elle va dire la terre est plate, vous allez l'inviter. Pour dire, c'est intéressant, parce que c'est vrai qu'on
le dit intéressant. Pas c'est vrai. Pourquoi elle n'est pas plate?
Alors vous avez fait d'excellentes audiences et on se dit, alors mince, oui. Donc si Elisabeth Lévy, elle fait de l'audience, etc., tout le monde va vouloir l'inviter.
Bah écoutez, de toute façon, moi je pense qu'il faut inviter tout le monde et je n'ai pas de liste noire et au contraire, j'aime le débat. Et c'est vrai, c'est un truc que je trouve
ne ratez pas Éric Zemmour contre Dieudonné la semaine prochaine chez Ali Badou.
Avec Soral. Non, mais en l'occurrence, il y avait aussi Jadeline Garde de Mediapart, qui n'est absolument pas de la même sensibilité, Jean-Michel Apathy en plateau, Émilie Tranen Nguyen, donc il y avait vraiment débat. Et
oui, c'est, bien sûr, il y a équilibre.
Moi, ce qui me passionne, c'est vraiment, j'adore ça, j'adore débattre, et je trouve que c'est super important dans l'espace public et dans le service public d'installer des endroits où on peut confronter les opinions.
Oui, c'est dommage qu'on ait pas ça, d'ailleurs, nous, pour la musique, un équilibre à respecter.
Oui, c'est bien.
Dans les médias.
Vous avez des quotas.
Ouais, quotas de chansons françaises.
Non, les quotas, c'est toujours les mêmes Français qui chantent. Ça n'a rien à voir. Bon, bref. On va parler rock'n'roll. Pour beaucoup, le rock, c'est une musique de dépressif en colère, une vieille révolte de mecs aux cheveux gras qui voulaient la liberté sexuelle et surtout ne pas faire la guerre. Des hurluberlus en moto qui n'auraient jamais dû survivre à l'arrivée des brushings et des juste au corps fluo des années 80. Des gens pas contents qui préfèrent une vie courte de feignasse alcoolique à la réussite sociale qui, comme chacun sait, passe par l'acquisition d'un costume, un pavillon de banlieue et une Rolex à 50 ans. Heureusement, la vie est plus compliquée que ça. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de l'incroyable pulsion de vie du rock avec un groupe américain des années 2000, Black Rebel Motorcycle Club. Là, on est sur le premier album, on est en 2001 et la question se pose, que s'est-il passé avec mon rock'n'roll ? Il faut dire qu'avec le grunge et la Britpop des années 90, on pensait bien début 2000 que la révolte s'était suicidée avec Kurt Cobain ou qu'elle s'était collée sous antidépresseur avec Radiohead. Eh bien non, elle survit toujours, cette petite voix qui nous crie dès l'enfance que la vie pourrait être plus intense, plus belle, plus juste. C'est ainsi qu'au début de notre nouveau siècle débarque ce groupe Black Rebel Motorcycle Club qui tire son nom du film L'équipée sauvage avec Marlon Brando, son blouson noir et sa grosse moto. Un fantasme de liberté, de refus de la fatalité, de la banalité, ce regard terrible que porte la jeunesse sur ces adultes courbés, esclaves d'une société qui ne les rend pas heureux, mais pour laquelle ils travaillent sans relâche. C'est ça le rock'n'roll, une question de foi, un cœur qui bat en noir et blanc, binaire, au rythme d'une batterie. I'm cette batterie, elle résonne plus fort aujourd'hui parce que le rock a été violé il y a tout juste 2 ans, que le souvenir est vif. Mais il faut garder la colère, c'est un sentiment sain. Il est bon d'être en colère, vivant, vibrant, mais aussi solidaire. Black Rebel Motorcycle Club sont en ce moment en tournée avec leur 8e album, Wrong Creatures, à paraître le 12 janvier prochain chez nous. Et aux États-Unis, à chacun de leurs concerts, ils reversent $1 sur chaque billet vendu à l'association War Child, qui aide les enfants et les femmes victimes de la guerre, du terrorisme et de la pauvreté. C'est ça aussi le rock'n'roll, prendre son destin en main, se battre pour des utopies et chercher à vivre le plus intensément possible en se fichant des modes de la réussite et du regard des autres. N'oublions pas que la révolte a du bon et que dans le bras d'honneur et dans le majeur tendu, il n'y a pas que du désespoir ou de l'immaturité, il y a aussi toute la beauté et la force d'une grande et belle liberté, celle de continuer à danser.
Belle Motorcycle Club, Little Thing Gone Wild. Merci Mélanie Bauer. Et voici le premier sujet avec vous. Et bien, à part Nicolas Hulot, Laura Flessel et éventuellement Édouard Philippe, les Français peinent à identifier les autres ministres, oui, qui restent la plupart inconnus. C'est le résultat d'un sondage. Qui est qui? Qui fait quoi? D'habitude, les médias font quand même leur boulot aussi un peu d'office de chef du protocole. Hein. Et oui, comme ça, ça se passe comme ça.
Honorable Van Gaverney, c'est le président de l'Assemblée nationale.
Ah, très heureux.
Bonjour.
Bonjour, monsieur.
Honorable Afoumé Moussa, c'est la présidente du Sénat.
Bonjour.
Bonjour.
Et le président du Conseil économique et social.
Oh. Ah non, président de la Cour des comptes.
Comment ça?
Ça fait déjà quelques jours que j'ai changé.
Mais on ne m'a rien dit.
Ah, écoute, on en a parlé avec le président comme ça au téléphone et il a dit... Faites comme vous voulez. Désormais, c'est Rodrigue qui me remplace au Conseil économique et social.
Social. Alors, je ne suis plus au Conseil économique et social. Je suis passé à la présidence du Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Et oui, c'est et oui, un extrait de Bienvenue au Gondwana, le film de Maman. Le qui est qui, là, est fondamental. Et donc, on se rencontre ici, 6 mois après la formation du gouvernement, que les ministres apparaissent comme des inconnus aux yeux des Français. Est-ce que c'est...
J'en fais partie, hein, de ces Français.
Ouais. Ouais. C'est vrai que, c'est-à-dire que quand vous, oui, quand vous tombez sur un, vous dites, tiens, attendez, le ministre de la Cohésion des Territoires, c'est qui encore? Ça vous arrive encore d'être dans le...
Bien sûr.
Ouais.
Mais d'ailleurs, je ne sais pas si vous êtes allé dans les bureaux des rédactions et de certains services politiques. Ils ont des trombinoscopes pour avoir le visage et le nom des nouveaux ministres. Mais c'est une bonne nouvelle.
J'allais vous demander, c'est une bonne chose ou une
une bonne nouvelle parce que ça veut dire qu'il y a eu quand même un grand renouvellement de la classe politique après la dernière présidentielle. Et puis, c'est une bonne nouvelle aussi d'un point de vue très égoïste parce que du coup, je fais une émission politique qui devient intéressante. Ah, on découvre des gens. Ouais. Alors qu'en général, après une année présidentielle, on retombe dans le train-train avec les mêmes têtes déjà connu. Donc non, il y a un effet nouveauté qui est assez formidable, je trouve.
Et cette nouveauté, vous le sentez aussi dans leur façon de répondre aux questions ou ils sont bien rodés à la langue
non,
de bois
comme la langue de bois, ça s'apprend très vite, mais ils ont une fraîcheur que leurs ancêtres ou leurs anciens n'avaient pas.
22% disent quand même, des Français, disent ne pas être en capacité encore de juger l'action du chef de gouvernement, faute de pouvoir l'identifier. Est-ce qu'il n'y a pas un côté où c'est un peu commode? Parce que finalement, quand on les regarde tous... c'est bien commode pour ceux qui sont pas très connus. Par contre, pour Nicolas Hulot, pour qui Nicolas s'en prend à la gueule, ouais. Donc, ouais. En fait, est-ce que lui, il catalyse pas un peu toute la critique parce qu'on le connaît et qu'il est populaire, et que les autres, comme on les connaît pas trop, pour l'instant,
ouais,
c'est un peu difficile de
juger. Ils
peuvent
faire leur truc dans leur coin et du coup, ça passe. C'est pas impossible. Il y a sûrement des faits comme ça.
Alors, quand les Français ont du mal encore à manier, ah, c'est Pénicaud qui est la ministre du Travail, c'est Blanquer qui est, voilà, je me risque pas à dire les prénoms. Vous voyez encore qu'on est en apprentissage.
Jean-Michel
Blanquer. Pour intéresser les gens aux émissions politiques, est-ce qu'il n'y a pas un handicap? Alors, c'est vrai qu'il y a une découverte
handicap,
de nouvelles
paroles.
Mais...
Regardez par exemple ce qui s'est passé sur France 2, l'émission de Léa Salamé. Elle fait une émission avec Édouard Philippe que personne ne connaît. C'est un carton d'audience. Les gens sont curieux. Ils veulent savoir qui est ce Premier ministre. Marine Le Pen, qui était une cliente en or pour les émissions politiques, débarque. Et c'est un naufrage en termes d'audience. Donc, je sais pas. Les Français, ils sont malins aussi. Ils ont envie de s'intéresser,
donc,
de savoir.
La première,
sûr de ça.
De temps en temps, oui.
Attendez, parce que vous êtes en train de nous dire que la première émission politique, c'était avec Édouard Philippe?
La première émission
politique. Ah, j'ai cru
politique.
Que c'était Alain Juppé. Ah mince, ok.
Il est beaucoup plus grand.
Ah non, c'était...
Parce que
ah non,
vous n'aviez pas mis l'image.
Mais, j'ai regardé
mais le son, c'était Alain Juppé.
J'ai regardé deux heures et j'ai vraiment cru que c'était Juppé. C'est fou quand même. Ils sont malins. On va aborder ce deuxième sujet avec vous. C'est le Maroc qui s'est qualifié samedi pour la Coupe du Monde 2018. Les Lions de l'Atlas. C'est beau. Ils retrouvent le Mondial.
Ben Majeral Anoual. Allez, on va sur les Champs-Élysées.
Avec alors Jean à Bruxelles, Roussi. Ils sont venus sur le piétonnier faire la fête.
Ça, c'était fou.
C'est donc les Lions de l'Atlas qui retrouvent le Mondial après 20 ans d'absence,
oui.
Notamment grâce à leur entraîneur français qui s'appelle Hervé Renard.
Enfin, grâce aux joueurs marocains, surtout.
Ouais, bien sûr, évidemment.
Oui, mais faut le signaler quand même.
Ah non, mais c'est incroyable ce réflexe colonialiste.
Je vous dis
si
ça
les
parce
Marocains
que...
ont gagné, c'est grâce à leur entraîneur français.
Elle a hésité à dire grâce au dompteur français. Elle a hésité, génial, on n'a rien à faire,
on est belges. Mais c'était juste pour dire que Hervé Renard, l'entraîneur des Lions de l'Atlas, il nous a expliqué en exclusivité par Jupiter sa méthode d'entraînement qui a fait gagner les Lions de l'Atlas. Écoutez, mais oui.
Le matin, 4 heures debout.
C'est formidable. Hein,
tout le monde, 4 heures debout.
4 heures et quart.
Non, 4 heures.
4 heures. Oh, c'est 4 heures.
Allez, sortir. Douche froide, glacée.
Douche froide. Hein,
glacée.
Glacée.
Pour déjeuner, à 4 heures et quart, tout le monde dans les camions.
Hein. Ah ben, quoi, quand même, un ricoré.
Non, rien du tout.
Un petit thé.
Non, rien du tout.
Rien du tout. Hein,
bon, oui. 4 heures et quart, tout le monde dans les camions.
Tout le monde dans les camions.
5 heures moins le quart, sur le terrain. Le terrain bien marécageux.
Marécageux.
Bien pierreux. Hein.
Pierreux.
Les gars qui rampent par terre hein, sur 5-6 km.
D'accord.
Même jusqu'à 10.
10 km. 12
km. Ramper.
Avoir des genoux à feu.
Oui, les genoux en feu, oui.
C'est des déchets, bien sûr.
Oui,
ça oui, indéniablement.
Alors, oui. Les Lions de l'Atlas, donc. Est-ce que vous savez d'où ça vient? Il y a beaucoup de lions
Il y avait des lions qui, malheureusement, ont disparu au début du siècle, chassés, et puis à cause de la déforestation. Mais il y avait des lions, des panthères dans l'Atlas marocain, jusqu'à une époque assez récente.
D'accord, donc les Lions de l'Atlas. Et quelles sont les couleurs? Tiens, c'est les couleurs du drapeau du Maroc?
Tout simplement, voilà. Rouge et vert.
C'est vrai qu'en Afrique, toutes les
c'est
équipes...
C'est bizarre, ils ont choisi d'autres couleurs.
Les interviews sportives de Charline, c'est toujours un régal.
Ouais, je ne fais pas mieux, hein, je ne fais pas me moquer.
Goal.
Ça s'est entendu que je suis une truffe en foot. C'est vrai, ça s'est entendu.
Et alors, cette couleur verte pour le terrain.
Alors, chantons l'hymne marocain.
Parce que c'est lié à la couleur de l'herbe.
Et les shorts. Attendez. En revanche, toutes les équipes de foot sur le continent africain ont des noms magnifiques.
Ouais. Les éléphants, les ivoiriens.
Et effectivement.
Les étalons au Burkina.
Ouais. Oui. Les lions de la Teranga. Oui, c'est ça. Ceux de la Teranga, le Sénégal, etc.
C'est pas les éperviers. Non, je sais pas.
Ça, c'est pas l'Algérie? Bon, enfin, bref, on est vraiment des truffes. Alors, quelle est l'importance du foot au Maroc au bout de 20 ans d'absence au Mondial? Est-ce que la liesse, elle a été particulièrement forte, j'imagine, ce week-end?
C'était incroyable. Bon, indépendamment de ce qui s'est passé à Paris sur les Champs et qui était plutôt réjouissant, au Maroc, tout le monde est descendu dans la rue avec la fête partout. C'est comme si on avait déjà gagné la Coupe du Monde.
Ouais.
C'est assez formidable.
C'est un peu comme Macron après le premier tour. Ils sont allés à leur tour, ouais.
Et alors qu'on a juste eu le droit de prendre des billets d'avion pour aller participer à cette Coupe du Monde, bah le foot c'est l'air qu'on respire au Maroc. Tous les gamins jouent au foot, c'est la passion, le sport par excellence. Ouais. Donc
mais
c'est
donc
normal que
ans,
ça prenne cette importance-là.
Ça a dû être difficile donc pendant 20 ans de
ça
ne pas avoir
très difficile. Je me suis senti français, très français.
Et oui,
pendant ces 20
vous
dernières
poser
années.
La question. Si dans la poule il y a un France-Maroc.
Attention, ouais. Robert Ménard nous écoute.
Exactement. Que faire? Que faire? Je vais être écartelé. Mais ouais. Je suis déjà écartelé parce que ma mère vient de Fès et mon père de Meknès. Et alors,
compliqué.
Tu fais un tagine au cardon. Est-ce que tu mets du citron dedans ou pas?
Ah.
Hein?
Là, faut être diplomate, on comprend mieux.
Si tu reçois la famille, qu'est-ce que tu fais?
Mais bien sûr.
Si tu es Fès, si tu ne mets pas de citron dans ton tagine. Et si tu es Meknès, si tu en mets. Donc c'est un peu le même problème que j'ai.
Je suis schizophrène, écartelé. Il a été sur la cuisine.
Exactement.
Je comprends bien votre dilemme parce que moi, ma maman est wallonne, mon papa est flamand. Et ben, personne ne voit que je suis métissée, donc je tiens à dire que je suis métissée.
Ali Badou, à la fin de l'émission, on propose un sketch à l'invité.
Avec plaisir.
Attention, vous êtes touriste à Paris avec Charline et moi-même. Et c'est Stéphane Bern qui nous fait visiter parce que maintenant, il faut payer l'entrée des cathédrales. D'après lui, il pense que c'est une bonne idée. Alors à quoi ressemblerait une visite de Paris si c'est Stéphane Bern et si la loi passe?
Mesdames, messieurs, à notre droite, nous allons bientôt passer devant Notre-Dame de Paris.
On peut y jeter un œil?
Mais arrête, on n'a pas les moyens.
Ah bah si, allons-y.
Bien sûr, 15 euros.
Juste pour regarder?
15 euros l'œil.
Mais dis donc, mais ça paye pas RTL ou...
Mais bonne nouvelle, il y a un prix pour les deux, 25 euros.
Mais c'est du vol, mais à ce prix, je peux avoir une demi-tasse de café sans sucre dans n'importe quel troquet parisien.
Emmenez-nous plutôt visiter un autre morceau du patrimoine français.
Oui, je propose Matignon.
Oh oui, j'adore Grégoire Philippe.
Oui, et c'est pas cher. En plus, ça ferait 5 euros.
5 euros, mais elle est où la logique?
Je crois que c'est pour compenser la baisse des APL.
Ah. Exact. Une visite payante à Matignon, un loyer d'étudiants sauvés.
Ah, oui, et si on veut visiter la Tour Eiffel?
Ça fait des années qu'on paye pour monter.
Oui, mais là, on va augmenter, car il faut payer le mur anti-balles.
Quoi? Bon, direction l'Elysée, immédiatement.
En route pour Jupiter.
Comme vous voudrez. Alors là, c'est 26 000 euros.
Mais dites-moi, c'est une blague?
Moi, je suis d'accord pour financer les frais de maquillage de notre président.
vous avez envie qu'Emmanuel Macron vous confie une mission. Je sais de quoi je parle.
Le traître.
Bah voyons, pendant que vous y êtes, traitez-moi de Manuel Valls.
Ah, j'irai pas jusque-là, mais je serais pas étonné que vous convoitiez un Marocain.
Calmons-nous, les amis, le tour n'est pas terminé.
Mais vous allez nous ruiner.
Mais à propos, si on allait visiter une vraie ruine.
Bonne idée, monsieur Bern, conduisez-nous rue de Solferino.
Ah, avec plaisir, là c'est gratuit.
Ah bon, pourquoi?
On estime que le Parti Socialiste a assez tapé dans la caisse.
Voilà, à propos de trucs en péril, est-ce qu'on pourrait pas visiter autre chose?
Oui, il me reste un fleuron du patrimoine qui tombe en ruine.
Ah, bah, très bien.
Allons à Canal Plus.
Ah non, je préfère pas, je vais pas en plus payer pour y retourner.
Lorsqu'on arrive à peu près à la moitié de l'émission, c'est qu'il entre en scène.
Exactement. Guillaume Meurice, c'est son tour. Chronique en duo, car il a demandé des explications à une interprète de langue des signes. Mais comment on comprend le Macron?
Chronique en partenariat avec donc les ateliers de l'accessibilité. Donc, faut que je sois assez précis. On va dire, c'est une chronique au poil de cul. Alors, je dis poil de cul juste pour le plaisir de voir Igor traduire poil de cul en ce moment même, qui se traduit, vous verrez, un peu de la même manière que se traduit Gérald Darmanin. Coïncidence, je ne sais pas. En tout cas, le métier de traducteur a pris une autre tournure avec l'élection de Macron, parce qu'on le sait, il a une pensée complexe. Ça, c'est compliqué pour tout le monde. C'est pas simple pour nous autres, les cons. Et encore moins pour les traducteurs. Par exemple, quand il entend poudre de perlimpinpin, Igor, qu'est-ce qu'il fait?
C'est une recette de Merlin l'Enchanteur ou ce genre de choses, quoi. Donc,
ça se traduit comment, alors?
C'est le chapeau pointu, quoi.
Chapeau pointu, ouais.
Alors, on peut utiliser la baguette magique et puis les petites paillettes qui sortent de la baguette.
Donc quand Macron il dit poudre de perlimpinpin, vous faites un chapeau pointu? Une baguette magique et des paillettes.
Le problème, c'est d'avoir quand même le temps de le faire.
C'est pas évident, hein, ça je vous l'ai dit. Le temps de faire Merlin l'Enchanteur, l'autre il est passé à la baisse des APL, hein, qui se traduit en langue des signes, voilà, par un bras d'honneur. Voilà, il faut être sur le coup. Surtout qu'après Macron, il peut enchaîner, mais alors sans aucun problème, sur un galimatia. Alors qu'est-ce que Igor, il fait avec galimatia?
Alors galimatia, je sais plus.
Ouais, déjà, il faut savoir ce que ça veut dire.
Ça.
Là, on est un peu emmerdé. Ouais.
Et là, on est un petit peu emmerdé parce que c'est pas un mot qu'on rencontre très souvent. Je pense que la plupart des gens l'ont découvert au moment où il a prononcé.
C'est vrai que parfois, faut l'écouter avec un dico, hein, Manu, ou avec un académicien sur les genoux, si l'odeur ne vous effraie pas, évidemment. Parce qu'il y a des mots, voilà, et des mots comme Chikaya, par exemple. Oh, les gens qui sont à la traduction de Chikaya, qu'est-ce qu'ils font? Ils paniquent.
Chikaya, gros coup de suée, gros coup de sueur, là c'est sueur froide. Hein.
On n'y pense pas à ça, les angoisses des traducteurs devant un discours de Macron, il y en a qui préfèrent Jean Lassalle, c'est vous dire là où on en est. Hein. Alors comment on peut se débrouiller avec Chikaya?
On résumerait ça en disant c'est des choses qu'on dit comme ça. Enfin, qu'on dit comme ça, ça ne veut pas dire grand-chose. Hein, mais finalement, c'est...
C'est du Macron, en fait. C'est vrai voilà, que ça ne veut pas dire grand-chose.
C'est du Macron.
Ouais, alors il faudrait peut-être d'abord éditer un dictionnaire français-Macron, Macron-français. Je rappelle, par exemple, que flexi-sécurité se dit « penche-toi bien en avant et tousse un bon coup ». Voilà, c'est pas évident. Il y a pire, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, le nom des ministres. Oh par exemple, et voilà, et par exemple, comment on traduit « castaner » ? Pour l'instant, il n'existe pas vraiment de traduction officielle. Alors moi, j'ai proposé de le traduire comme on traduit « toutou ». Parce que c'est vrai que Macron, il dit souvent « Allez, donne la patte, Christophe. Allez, allez, fais le beau Christophe. » Oh, il est beau. Il est beau, le Christophe est gentil. C'est un bon Christophe, ça. Voilà. Alors, est-ce que Igor, il n'est pas d'accord avec toutou ?
Un toutou ? si, mais il risque de ne pas être très, très content. Non, non. Mais ça arrive, hein, parfois.
Il y a les politiques, ils ne sont pas contents de leur traduction.
Ouais, ouais. Et en fonction de leur popularité, on garde ou pas le signe.
Ah, alors, attendez, parce que j'ai regardé la popularité de Castaner. Il est entre une table basse bancale et Anne Hidalgo au Congrès des forains. Donc, à mon avis, mon signe peut marcher, même s'il n'aime pas. Alors, après, j'ai plein d'autres idées. Par exemple, comment on dit ficus en langue des signes ?
Ficus, pour la botanique, malheureusement, la langue des signes, quand même, manque beaucoup de vocabulaire en botanique.
Est-ce qu'on traduit ficus comme on traduirait Nicolas Hulot ?
oui, alors Nicolas Hulot, on va pas dire ficus pour Nicolas Hulot, hein, mais...
Pourtant c'est quasiment la même chose.
C'est quasiment la même chose, ficus et Nicolas c'est... Hulot.
Mais non, évidemment, j'exagère, mais non, puisqu'un ficus c'est apaisant, c'est joli, c'est utile. Alors que Nicolas Hulot, bon, on dirait une barre d'uranium peinte en vert, hein, ça n'a absolument rien à voir. Et quand on voit d'où il vient, permettez-moi de vous dire que c'est assez croquignolesque. Hop, 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 croquignolesque, comment on fait avec ça Igor ?
Croquignolesque, c'est croquignolesque, c'est du guignol, c'est ça, c'est
ouais, c'est plus ou moins ça.
J'imagine guignolesque, mais alors croquignolesque,
encore des sueurs froides quoi.
Bon voilà, c'est oui, c'est pas un métier facile. Hein, c'est pas un métier facile.
Non, c'est pas un métier facile, mais c'est un métier utile. Alors bravo à toutes celles et tous ceux qui l'exercent. Hein. Merci Igor et merci à ses collègues. Salut aux vrais malentendants qui nous regardent et merde aux faux malentendants qui nous gouvernent.
Tes bras qui m'en serrent, c'est bien là que je me perds. Les Indiens d'Amazonie attrapent au cœur des maladies. Contagion express envoyé par courrier civilisé. Amazonie.
avec Christine and the Queens qui chantait Amazoniac et voilà qui annonce l'arrivée dans l'open space de Annie Dupéret.
Chouette.
France Inter.
Ah, ne criez pas, hein.
Charline Vanunacker.
Ah, voilà des manières.
Alex Vizorek.
Où croyez-vous par Jupiter ?
Bienvenue Annie Dupéret.
Mais merci de m'inviter.
On est ravis de vous avoir avec nous. On a l'impression que vous nous accompagnez depuis tellement longtemps. Puis on a l'impression de vous connaître, mais
vous avez grandi avec moi, c'est ça.
Voilà, un peu.
Comme pas mal de gens.
Bah oui, tout le monde vous dit ça, non ?
J'étais dans votre biberon, tout ça.
Mais tout le monde doit vous le dire, mais ça fait plaisir quand même.
Oui, tout à fait.
Ça vous rajeunit, ça fait plaisir.
Oui, c'est ça.
Alors, on va parler notamment de une famille formidable. Car c'est au bout de 25 ans et un quart de siècle, donc c'est la dernière saison, on peut dire, la 14e.
C'est la 14e, c'est la dernière, on n'en sait rien.
On n'en sait rien.
Pour l'instant.
On attend que les instances qui sont dans des bureaux en verre, vous savez, en haut de l'immeuble de TF1, décident que savoir si on continue ou pas.
Donc la porte est toujours ouverte, profitons-en comme si c'était la dernière fois. Annie Dupéret, notre consoeur Dorothée Barba, qui fait une chronique le matin dans le 5-7 sur la télévision, expliquait qu'il y avait un côté précurseur dans Une famille formidable, par rapport par exemple à comparer à Plus belle la vie, et cette volonté d'épouser l'époque de façon très étroite.
Épouser l'époque, c'était, disons qu'on on traitait de sujets qui nous intéressaient, voilà. Je crois.
Y compris
on en
vous
parlait
personnellement,
beaucoup d'ailleurs. Ouais. Oui. On avait beaucoup de discussions au début surtout, sur ce qui nous souciait, sur ce qui nous semblait intéressant et tout ça. Pas forcément drôle d'ailleurs, mais on a traité des sujets graves souvent avec un mélange de comédie.
Qu'est-ce qu'elle représente dans votre carrière, Annie Dupéret, cette série ?
J'ai toujours dit cadeau de la vie et du métier. Cadeau de la vie et du métier. C'est vrai que c'était tout à fait étonnant. Vous parlez du voile noir, effectivement. Je finissais d'écrire assez péniblement le voile noir moralement. Je veux dire, c'était pas facile de se replonger comme ça dans le deuil et cette recherche-là. Et j'avais souhaité jouer une comédie. Il m'en fut amené trois épisodes d'une heure et demie qui commençaient très exactement le lendemain du jour où j'avais promis de rendre mon livre. Et qui plus est, avec un metteur en scène, on a découvert au bout de quatre phrases qu'on était orphelins au même âge. Alors déjà à cette époque, c'est vrai que j'ai sorti un livre là, qui s'appelle Le rêve de ma mère, où je me dis qu'il y a quand même dans ma vie beaucoup de choses étranges comme ça qui sont. Mais là, ce jour-là, je m'étais dit quand même, les anges se sont bien arrangés, quoi. Je sais pas, il y a quelque chose là.
Moi, je voudrais que vous leur expliquiez, Annie Dupéret, à ces deux-là, qu'on peut faire des prime time sur TF1 et puis faire du Wilde, du Blié, du Costa Gavras, et que c'est pas incompatible, et que voire même l'un nourrit l'autre.
Ah oui, bien sûr. Oui, bien sûr.
Merci, madame.
Vous savez,
il y en a un qui nourrit plus, même. Hein.
Quand j'ai commencé à 17 ans, ma première pièce, il y a un de vos collègues là qui m'a. J'ai eu les yeux comme des soucoupes, qui m'a dit « Quelle va être votre ligne de carrière ?» Et là, tout à fait instinctivement, j'ai dit « Eh ben écoutez, le zigzag !» Parce que ça me paraît la manière la plus longue et la plus marrante d'aller d'un point à un autre.
Mais est-ce qu'il faut faire attention quand on fait du zigzag ou c'est juste l'instinct qui parle ?
Question intéressée. Hein.
Oui, un petit peu intéressée.
Complètement intéressée.
Moi, j'ai fait attention à rien puisque, effectivement, comme je le dis dans mon dernier livre, je n'ai même pas vraiment rêvé d'être comédienne. Je n'avais aucune vision, aucune projection de moi dans l'avenir. Donc, j'allais comme ça, suivant les gens que je rencontrais, les choses qui me paraissaient les plus amusantes. Et puis voilà, j'ai été complètement au coup de cœur et à l'instinct.
Une famille formidable. Et puis on parlera aussi, bien sûr, on va revenir sur le voile noir tout à l'heure avec Clara Dupont-Monod et votre dernière biographie parue chez Au Seuil, Annie Dupéret, Le rêve de ma mère. On va y revenir tout à l'heure. Et on va vous faire parler de tout autre chose maintenant. Un premier sujet qui nous touche tous. Alors, si ça ne tenait qu'à la France, nous aurions dit stop au glyphosate. Ouais. Mais c'est l'Europe qui décide et nos camarades États membres ont décidé de continuer à autoriser l'herbicide pendant 5 ans. Alors, qu'est-ce qu'on dit dans ces cas-là?
Putain, c'est vachement bien. Nous sommes quand même tous des Européens.
Putain, c'est vachement bien. Nous sommes quand même tous des Européens.
Oh. Putain.
Et c'est ça qui est bien. C'est Stromae et Arnaud, bien sûr. Annie Dupéret, est-ce que cette décision européenne vient entacher votre vision de l'Europe ? Vous qui, on le sait, très attachée à la santé, la nature.
Oui, entachée, non, parce que quand même, on On savait depuis un bout de temps que Monsanto et Bayer étant fusionnés, il allait y avoir des pressions monstrueuses et que, bah, moi, je suis très contente que la France ait résisté, quoi. Ouais. Mais malheureusement, bah, voilà, on va continuer à être bien européens, empoisonnés, et puis c'est tout, voilà. Tous en cœur!
C'est ça.
Tous
c'est,
en cœur.
C'est bien
coeur.
D'être européens, c'est on est tous empoisonnés ensemble. Voilà.
C'est l'Europe qui protège. Non, mais même pas tellement, puisqu'il y a le Lasso, là, qui est un pesticide de Monsanto, a été interdit en Belgique en 1991 et en France en 2006. Oui. Donc c'est même pas c'est complètement décalé ce genre de décision, c'est très bizarre puisqu'on déciderait donc qu'un produit serait toxique dans un pays mais pas dans un autre.
Si ça se trouve, il y a des lobbies derrière. Enfin, moi, je dis ça. Après, je lance ça comme ça, un pavé dans la mare.
C'est dingue, c'est dingue. Annie Dupéré, vous qui vivez dans la Creuse et entourée de la nature, donc vous êtes très proche de la nature.
Vous avez des poules.
Oui.
Est-ce que,
oui, je sais, vous
avez des poules. Est-ce que vous vous sentez comme ça,
vous, Guillaume.
Bon, dites donc.
Est-ce que vous vous sentez un peu comme menacé par une menace invisible, en fait? Ou est-ce que vous y pensez quand... je vous donne mon exemple.
Elle n'est pas invisible. Ah. Hein. C'est vrai que moi par exemple, je manifeste peu. Mais par exemple, j'ai été faire carrément un sitting à Guéret, devant la préfecture. À l'époque, je ne sais pas ce que c'est devenu d'ailleurs, ça va revenir à la charge, où on prévoyait d'enfouir les déchets nucléaires en Creuse, dans le granit. Parce que c'est pratique, c'est un pays où il n'y a pas grand monde, voilà, il est assez beau, il est assez préservé. Le granit, on s'était dit, tiens, on peut forer profond, faire des espèces de cavernes là-dedans, et foutre toutes les saloperies de la terre dans un pays où personne ne va protester. Heureusement, il y en a quand même quelques-uns qui ont protesté. Apparemment, c'est un petit peu arrêté pour le moment, mais ça va revenir.
Oui.
Bien sûr, ça va revenir. Il faut bien faire quelque chose, hein.
Quand vous mangez des légumes, etc., vous n'êtes pas obsédé par ça? C'est-à-dire, vous ne dites pas, allez hop, une petite salade au glyphosate, ou tiens, le glyphosate, vous le préférez en julienne ou en ratatouille? Est-ce qu'il n'y a pas une sorte de... Alors, on en parle énormément, et à raison, bien sûr, mais moi, c'est peut-être une phobie personnelle, mais moi, maintenant, comme je mange une salade, je me dis, et baf, encore un petit peu de glyphosate dans les urines.
Oui, c'est vrai, on y pense. Hein.
Bien sûr. Si au McDo, vous pouvez demander qu'ils enlèvent la salade. Vous pouvez juste
je vous rassure, j'ai pas le même problème avec la viande que je mange presque plus. Et Clara Dupont-Mono s'est replongée dans Le Voile Noir qui sort les éditions Point.
Voilà, et c'est un livre sur vos parents disparus alors que vous étiez enfant. C'est un livre très beau, très fort, en forme de stèle. Vous qui n'avez pas fleuri la tombe de vos parents, vous avez fait mieux qu'une fleur, vous avez fait un livre. Ça a l'avantage de ne pas se faner, au moins, ça dure plus longtemps. Et vous avez écrit ce livre... c'est un livre de souvenirs. Bon, et vous l'avez écrit précisément parce que justement vous n'aviez aucun souvenir. C'est-à-dire que la littérature fonctionne souvent comme ça. Stendhal, qui était sûr de pas savoir aimer, résultat, il a écrit les plus belles pages d'amour que la littérature.
On écrit en creux.
Et on écrit en creux, exactement. Ouais. Et en effet, vous avez écrit vos parents à défaut d'avoir pu les vivre. Mm-hmm. C'est la force des livres, en effet, qui s'appuie sur du. Rien, a priori, sur ce qu'on croit être du vide, sur ce qu'on croit qui ne nous manque pas. Et en effet, pendant 35 ans, vous avez mis toute votre énergie à écarter la mort de vos parents. Vous dites « mon acharnement brutal à être sans eux ». Être sans eux et sans cette matinée du 6 novembre 1955, vous aviez 8 ans et demi, vos parents 30, morts asphyxiés, ensemble, dans la salle de bain. Je vous cite « c'était une mort silencieuse, la mort qui cueille en douce, qui laisse les corps beaux et intacts, comme endormis. Ce qui est fou, c'est que, je ne sais pas si vous vous en êtes rendu compte, c'est que votre douleur ressemblera à leur mort. C'est-à-dire que comme leur mort, votre douleur sera silencieuse, intacte et endormie. C'est-à-dire que ces trois adjectifs qui collent parfaitement à la description de votre chagrin, en réalité, sont ceux finalement de la mort de vos parents. Mmh. Alors, il faut dire que l'esquive, vous la mettez en place à peu près 5 minutes après la découverte des corps. Vous jouez comme si rien ne s'était passé. On vous dit, pauvre petite, vous rétorquez, quand est-ce que je récupère mes affaires? Et personne, pas même vous, ne comprend encore qu'il s'agit d'une stratégie de survie. C'est au point où, alarmée par cette apparente indifférence, votre grand-mère en vient un jour à poser un portrait de vos parents sur votre lit, sans vous le dire. Vous entrez dans la chambre, vous avez un tel choc que vous entrez dans une crise de larmes très profonde, et votre grand-mère vous murmure « Pardon, je voulais voir si tu sentais quelque chose ». Plus tard, vous travaillez, vous tombez amoureuse, vous faites des enfants, vous vivez, en contournant toujours cette douleur, qui pourtant est là, elle est même dans un tiroir, dans une commode que vous appelez commode sarcophage. Et dans ce tiroir, il y a ce qui reste de vos parents, et notamment des petites boîtes en bois remplies des photographies de votre père. Et ce sont ces photographies qui vont servir de trame au voile noir. Ce qui est aussi fou, c'est qu'en lisant votre livre, tout du long, j'ai pensé à un autre livre, avant de m'apercevoir à la fin de la lecture, que c'était une des phrases somptueuses de ce livre-là, que vous aviez mise en exergue du vôtre. Il s'agit d'un livre que je vous ai apporté là, mais que vous avez certainement, qui s'appelle « W » ou « Le souvenir d'enfance » de Georges Perec. Il faut lire « Le voile noir » et après il faut lire « Le souvenir d'enfance » de Georges Perec. C'est, en fait, c'est logique, parce qu'il a la même histoire que la vôtre. Il a perdu ses parents, et en plus une bonne partie de sa famille, lui c'était dans les camps. Et comme vous, il reprend le fil. Comme vous, il n'a aucune indulgence envers lui-même. Comme vous, il s'appuie sur des photographies. Et comme vous, il est parti de ce qu'il pensait être du rien. Et entendez ce qu'il dit, qui résume si magnifiquement votre livre, Annie Dupéré, votre vie. Je cite « Même si je n'ai pour étayer mes souvenirs que le secours de photos jaunies, je n'ai pas d'autre choix que d'évoquer ce que trop longtemps j'ai nommé l'irrévocable, ce qui fut, ce qui s'arrêta, mais ce qui fut aussi pour que je sois encore. » Et cela définit exactement votre démarche littéraire, comme quoi écrire affirme la vie. Donc je vous redonne les références. Annie Dupéré, Le voile noir, Je vous écris, est paru en édition Point.
Merci Clara Dupont-Monod. Et justement,
merci Clara.
Elle a vu juste.
Bah oui.
Et vous publiez au Seuil maintenant Le rêve de ma mère.
Oui, oui. Parliez des concordances comme ça. J'ai commencé à écrire Le voile noir quand mon fils a eu l'âge que j'avais quand mes parents sont morts. Et effectivement, je me suis dit, je peux pas lui léguer un vide pareil, quoi. C'est pas possible. Faut que je m'attaque à cette non-mémoire et que je fasse quelque chose. Et là, le rêve de ma mère, effectivement, j'ai pris conscience seulement en écrivant la fin du livre, en lisant la date de naissance de ma mère que je n'avais jamais fait, en fait. Et je me suis aperçu que je finissais d'écrire ce livre quand ma fille a eu le même âge que ma mère quand elle est morte.
C'est paru au Seuil avec pas mal de photos, d'ailleurs.
Oui,
aussi, hein.
Oui, oui. Je voulais qu'il soit ludique aussi. Comme Le voile noir, par exemple, je voulais qu'il soit beau avec les photos de mon père. Celui-là, Le rêve de ma mère, c'est un livre qui m'est très sensible, puisque c'est un chemin comme ça vers ma mère et vers l'invisible, un peu vers les questions qu'on se pose sur ce que vous lèguent nos morts et de quelle manière ils peuvent nous conduire quelquefois comme ça. Enfin, en ce qui la concerne, elle, j'en suis de plus en plus sûre, quoi. Mais c'est vrai que je voulais que ce soit amusant. Il y a des choses amusantes aussi là-dedans. Il y a tous les passages sur le cirque, les galas de l'Union, ma carrière ratée de peintre, les copies de Dufy et de Matisse.
Eh bien, de livres, il en est encore question, parce qu'on va se demander qu'est-ce qui nous pousse à relire un livre ou à revoir un film. Il y a mille raisons, dont le plaisir, parce qu'on est rarement déçu par un livre qu'on a adoré, justement, comme pourquoi pas Le voile noir. Et comme on dit en Belgique, qui n'a jamais vu au moins un film deux fois, une fois?
Vous allez voir quoi comme film, monsieur?
Ah, oh, vous avez de la chance. Ah, j'ai adoré ce film. Ah ouais, je vous jure. Ah, c'est génial. Ah, j'ai adoré. En plus, en fait, à la fin, on se rend compte que c'est le père qui a tout manigancé et on s'y attend pas du tout.
Alors, c'est Connasse avec Camille Cotin. Et c'est un article dans Télérama, À la recherche du temps retrouvé, où on se pose la question, pourquoi est-ce qu'on a envie de relire des livres, revoir des films? C'est des choses que vous faites, vous, Annie Dupéré?
Oh, rarement, je l'avoue. Rarement. Mais par contre, moi, j'ai une bibliothèque, alors je n'ai jamais l'occasion de le faire, mais où je ne garde que les livres que j'aurais envie de relire un jour.
Ah, voilà.
Tout le reste, je le donne. Ouais. Voilà, il faut que ça circule, les livres. Voilà, dès que je l'ai lu, hop, je le donne à quelqu'un.
Mais il y a un sanctuaire, vous avez sanctuarisé.
Ben, notamment, il y a mes deux auteurs préférés que là, je donne pas. Il y a Colette et Frédéric Dard. Ça a l'air éloigné comme ça. Ça ne l'est pas tant.
Pas tant. C'est vrai.
Moi, ça, il me passerait pas par l'esprit d'avoir envie de relire un.
Ah, c'est vrai?
Oui, parce qu'en fait, ça reste. Je sais pas si vous êtes pareil, Annie Dupéré, mais moi, pour moi, ça reste associé à une petite période de ma vie, au moment où je le lisais. Et du coup, je n'ai pas envie de.
De retrouver les sensations. Vous n'avez pas envie?
Non, mais il y a une autre lecture avec l'âge aussi.
Oui,
avec
le moment de la vie. Oui, mais la première étant ma première découverte de ce livre, et du coup, j'ai pas envie d'aller la doubler avec une autre expérience de moi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est associé à un moment de sa vie.
Mais ça dépend.
Lecture.
Ça dépend. Il y a des auteurs aussi. On se sent un peu chez soi. Donc là, on peut les relire, on y revient comme ça. Oui, c'est Annie Ernaux, par exemple, toujours que j'aime beaucoup. J'aime sa démarche. Moi, je suis tout à fait capable de relire des livres d'elle. Elle a écrit un petit bouquin, notamment, qui est absolument extraordinaire, qui s'appelle L'autre fille. Mm-hmm. Qui est un petit livre qui n'est pas très connu d'elle, comme ça, sur une sœur qu'elle aurait pu avoir et qu'elle n'a pas eu et qu'elle a découvert ça tardivement, comme ça. C'est tout à fait magnifique, quoi. J'aime beaucoup.
Voilà, c'est les livres de coloriage, parce que quand vous les reprenez,
ils sont déjà coloriés, c'est vrai. Puis les livres qu'on a lus à l'école, on était peut-être un peu jeunes et on n'a peut-être pas tout compris, et maintenant on peut les apprécier pleinement. Annie Dupéré, on a envie de faire des blagounettes avec vous.
Oui, parce que je ne sais
pas comment vous le dire autrement.
En fin d'émission, on propose un sketch à l'invité, il découvre son rôle, car on est tombé sur un article dans Le Parisien. Oui. La saison des pilleurs d'huîtres est ouverte. Il y a des vols d'huîtres dans le bassin d'Auvergne. Vous avez oui dire.
Jusqu'à 20 tonnes.
Et oui, mais l'État français va prendre les choses en main. Gérard Collomb, ministre de l'Intérieur, c'est Guillaume Meurice.
Bonjour.
Annie Dupéré, vous êtes son chef de cabinet. Charline et moi, on est éleveurs.
Les huîtres.
Éleveurs d'huîtres. Allez, bah oui, vous avez le texte. On est parti, on se rend sur le bassin d'Auvergne.
Bonjour, bienvenue à cette table ronde sur la sécurité des huîtres.
On n'en peut plus
On va élever des moules.
Calme-toi.
Tout d'abord, nous tenons à vous rappeler que l'État français est à vos côtés. Oui. N'est-ce pas, monsieur le ministre? Je comprends rien à ce que je lis.
Oui, nous annonçons la mise en place de nouvelles mesures sécuritaires. Il faut vaincre Daesh.
Non mais il vieillit, lui, il confond les dossiers, là.
Oh papy, c'est pas Daesh, c'est voleur d'huîtres.
Oh, pas du tout, on vaincra Daesh, la division armée de l'extorsion et du chapardage d'huîtres. Pardon, j'ai vieilli.
Oui, sachez qu'on ne compte pas nos heures, on fait les trois huîtres.
Nous on n'en peut plus, nous.
Nous on a le moral à marée basse.
Bon, premièrement, la brigade des jeux de mots est à la porte. Deuxièmement, l'armée française sera déployée dans le bassin d'Arcachon.
Dans le cadre de l'opération Santiperle.
Nous annonçons également la mobilisation de toutes les forces de sécurité.
Avec la mise en place d'un plan huîtri pirate.
On les aura, ces salauds.
Oui, qu'on les noie dans l'eau de mer.
Oui, les auteurs du texte.
Bouffer des huîtres avariées.
Et c'est pas tout, tous les services de renseignement sont sur le coup.
Tout à fait, la DGSI, vous craignez le pire, attention, Direction Générale de la Sécurité Intérieure. Surveillera l'intérieur des coquillages.
Et la DGSE, Direction Générale de la Sécurité Extérieure, empêchera les incursions de voleurs d'huîtres venus de l'étranger.
Qu'on les expulse !
Ouais, on n'est pas là pour enfiler des perles !
Les douanes vont lutter contre le recel et le trafic d'huîtres.
Tandis que les renseignements généraux vont recruter des informateurs au sein des poissonneries.
Ah bon ? On peut peut-être s'en ouvrir quelques-unes ?
Des voleuses ?
Non, des huîtres.
Ou les deux ?
Non, mais capturer les vivants !
Ouais, qu'on les mange comme ça, comme les huîtres !
Et si on les attrape pas ?
On a un plan B. Ah.
Le porte-avions Charles de Gaulle bouillera dans le bassin d'Arcachon.
S'il y arrive, ça c'est pas sûr.
Sinon, on demandera à Bolloré de nous prêter son yacht.
Ah ouais. Oh, bah ça c'est bien le minimum. Hein.
Vive l'île de l'air en libre !
Bon, eh ben je crois que vous êtes rassuré.
Oui, ça va.
Alors, monsieur le ministre, on peut se rendre au dossier suivant ?
Oui, gros dossier.
Un groupe de voleurs de sapins de Noël du côté de Marseille.
Mais il n'y a pas de sapins à Marseille.
Oui, c'est pour ça qu'ils sont très difficiles à attraper.
C'est très très con, hein.
Alex, là, il est écrit sur ma feuille, lancez Frédéric Fromet.
Oui, ne le lancez pas trop loin, parce qu'on en a besoin tous les jours pendant les florilèges. Aujourd'hui, il interprète une chanson suite à une semaine qui a connu deux grands événements. La sortie de l'iPhone 10 et malheureusement le décès de France Gall. Il n'en fait qu'un.
Qui a eu cette idée conne un jour d'inventer l'iPhone qui nous vend du superflu au prix de la peau du cul? C'est ce merveilleux Apple qui se fout de notre gueule, qui ose nous faire marcher partout la tête baissée, les yeux rivés sur l'écran, car c'est très très important, pauvre piéton écrasé par un bus en jouant à Candy Crush. En école hôtelière, on apprend comme c'est beau que le divan cellulaire se place à droite du couteau. Qui a eu cette idée conne un jour d'inventer l'iPhone, faisant de nos jours et nuits un vrai troupeau de zombies accros comme des toxicomanes à leur dose de cam? Est-ce que j'ai du réseau? Est-ce que j'ai de la batterie? Est-ce que j'ai des textos? Ou est-ce que je l'ai mis sans lui? C'est comme si j'étais mort. Sacré, 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 sacré téléphone. Qui a eu cette idée conne un jour d'inventer l'iPhone, de nous faire croire que la vie, c'est pas une seconde sans lui. C'est ce merveilleux vieux Apple qui se fout de notre gueule, qui ose dire que la bête est déjà plus qu'obsolète, qu'il y a un nouveau modèle qui clignote et fait la vaisselle. C'est ce truc avec une pomme qui veut qu'on consomme des exemples à l'appel justifiant son emploi. Allô, devine d'où je t'appelle, je suis juste derrière toi. Qui a eu cette idée conne un jour d'inventer l'iPhone? Ce sans fil pour psychopathe, un putain de fil à la patte. C'est quand même bien pratique dans un monde hystérique. Faut que je prenne une photo, faut que je fasse un selfie, que je fasse une vidéo de ce que je mange ce midi. Tout le temps, partout, allô, t'es où? Sacré, 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 sacré téléphone. Qui a eu cette idée conne un jour d'inventer l'iPhone? Et l'iPod et l'iPad, aïe, c'est pour dire que ça fait mal. C'est ce merveilleux Apple qui se fout de notre gueule.
Il est déjà presque 18h, Alex.
Oh non.
Mais c'est pas une fin, c'est le début de quelque chose. La préparation de l'émission de demain avec Charlotte de Turckheim et Sandrine Bonner.
Chouette.
Ça va être très très chouette.
Beau programme.
À demain.